Bien. Nous savons tous que Daniel Eller-Roazen est un homme au talent varié. Hein, et la semaine dernière, en le présentant, j'avais parlé de son dernier livre sur les pirates, hein, qui change de son inspiration précédente. Ce livre vient de paraître en français aux éditions du Seuil, « L'ennemi de tous, le pirate contre les nations », hein, et voilà, joliment présenté, commençait le faire au Seuil, et c'est vraiment la gloire d'être traduit, à peine a-t-on publié, dans sa langue d'origine. Alors, donc, dans cette série de cours sur harmonie et disharmonie du monde, Daniel Eller-Roazen nous a parlé la semaine dernière en principe du son, du maître et du nombre de Pythagore à Nicolorem, mais disons surtout du son et du nombre de Pythagore à Boès et un peu au-delà. Et nous avons donc beaucoup vécu dans la forge de Pythagore. Nous y retournons apparemment, ou peut-être dans une autre. Et aujourd'hui, il nous parle sur le thème « Dans la forge, l'invention de la consonance ».
Merci. Consonner. Merci, c'est un grand plaisir et aussi un privilège peu mérité de pouvoir présenter cette conférence, cette deuxième conférence devant vous tous ici, d'autant plus que je garde toujours un si beau souvenir de mes visites, de mes premières visites à cette institution il y a une dizaine d'années lorsque j'ai eu la chance d'assister au séminaire du professeur Michel Zinck sur la nature et la poésie au Moyen Âge. Donc aujourd'hui, je parlerai de la poétique médiévale et je laisserai effectivement pour un moment les nombres et les sons et je passerai au vers. Et parler de la poétique devant vous, c'est une tâche redoutable, mais aujourd'hui, ce qu'elle a d'imposant s'accroît davantage puisque je vois dans le public ces deux critiques et historiens et théoriciens de la littérature médiévale dont j'ai tellement appris et qui m'ont apporté un très grand soutien de l'époque quand j'étais en thèse sous leur direction jusqu'à nos jours, c'est-à-dire Madame Jacqueline Cerchilini-Toulet et Monsieur Steve Nichols. Donc c'est avec une certaine appréhension que non moins que celle de la semaine dernière que je propose de vous présenter cette deuxième leçon qui s'aventure dans le domaine dont vous êtes les trois, les maîtres, c'est-à-dire la poétique médiévale. Selon la tradition classique, Pythagore fut l'inventeur de la consonance. Mais il serait erroné de déduire de ce fait que les découvertes en harmonie attribuées aux penseurs grecs se limitaient à la doctrine des sons musicaux. En vérité, Pythagore parvint, par l'analyse des intervalles, à formuler un seul projet, celui qui voyait dans le nombre l'élément primitif dans l'ordre du monde. Que l'on pût rapporter les consonances de l'octave, de la quinte et de la quarte à des simples rapports arithmétiques, cela signifiait que dans le muable et dans l'inconstant se laissaient détecter des principes proprement arithmétiques, stables et nécessaires. Lesquels ne dépendaient en rien du corps et de la matière. Ainsi, la théorie des sons musicaux valait-elle moins pour elle-même que comme paradigme, car elle illustrait ce à quoi l'épistémée antique avait aspiré. Cette contemplation du cosmos, où certains êtres sensibles se ramènent à l'intelligible et où quelques corps matériels exhibaient des essences éternelles. Que le procédé de déchiffrement arithmétique fût rapporté à des domaines autres que celui des sons musicaux, cela fut donc naturel. Bien plus, il fut nécessaire pour que le projet pythagoricien acquît une portée générale. Cependant, il y eut un doute. À quel point la nature se laisserait-elle transcrire? De l'arithmétique à la musique, le passage était exemplaire. Restèrent des transitions plus obscures, mais non moins cruciales. Ces dernières durent mener à l'achèvement du projet de Pythagore, et à elles fut attribuée la tâche d'identifier des indices ultérieurs de l'harmonie du monde. Sans doute Platon fut-il le premier témoin de ces efforts pythagoriciens. Dans le Philèbe, Socrate rappelle à Protarque qu'il existe un savoir mathématique des intervalles, qui étudie leurs diverses natures, distinctions et combinaisons. C'est la musique. Mais il ajoute que l'on peut pousser plus avant, et il explique « Nos devanciers ont appris à dénommer ces combinaisons d'intervalles harmonie, harmonias. Ils nous ont aussi appris qu'il se produisent d'autres qualités analogues, inhérentes cette fois au mouvement des corps, lesquelles sont soumises au nombre et qu'il faut appeler rythme et mesure. Rhythmus kai metra. De ces qualités, analogues aux sons musicaux, le banquet dit davantage. On y lit « L'harmonie est une consonance, une symphonia. La consonance, un accord, homologia. C'est de la même manière que le rythme résulte du rapide et du lent, d'abord opposé, puis accordé. » Dans les lois, Platon évoque encore une fois un ordre, taxis, dans les déplacements des corps, lequel correspond en quelque sorte à la règle des intervalles acoustiques. Il note que cet ordre dans le mouvement a précisément reçu le nom de rythme. Ce sont les mots dans les lois. Cet ordre dans le mouvement a précisément reçu le nom de rythme, tandis que l'on appelle harmonie l'ordre de la voix, où l'aigu et le grave se fondent et que l'union des deux se nomme art choral. Selon Platon, il existe donc une régularité dans le corps en mouvement, grâce à laquelle une diversité visible se ramène au-delà de la musique, à l'unité. Cette régularité s'appelle le rythme, rhythmos. Dans son étude classique de ce vocable, Émile Benveniste remarquait que dans ces passages, Platon emploie encore rhythmos au sens de forme distinctive, disposition, proportion. Il innove en l'appliquant à la forme du mouvement que le corps humain accomplit dans la danse et à la disposition des figures en lesquelles ce mouvement se résout. L'auteur anonyme du 19e des Problemata pseudo-aristotéliciens semble connaître cette même acception du mot. Ainsi affirme-t-il que nous aimons le rythme puisqu'il contient un nombre ordonné et reconnaissable et puisqu'il nous impressionne de façon ordonnée. Mais bientôt, le sens du mot grec allait subir une modification supplémentaire. Car il arriva que le rythme se retrouva à l'intérieur de cette partie mouvante du corps humain qu'est la voix. Alors, les auteurs antiques discernèrent dans le chant non seulement un certain arrangement de ton, mais aussi une certaine disposition des mouvements, dont la forme, quant à elle, persistait, en dépit de tout changement. Ainsi, une nouvelle partition des savoirs musicaux s'imposa. Le nom d'harmonique fut réservé à cet art qui considérait les sons en tant que sons. Réciproquement, le nom de rythmique fut attribué à cet art qui traitait des sons en tant que mouvement. Aristoxène de Tarente, l'élève d'Aristote, composa les plus anciens ouvrages qui nous soient connus de ces deux branches de la musique. Ce sont ses précieux Elementa Harmonica et ses Elementa Rhythmica, dont il ne survit aujourd'hui que des fragments. À l'époque hellénistique, le champ de la musique se diversifia davantage. Il devint habituel de considérer que cette science comportait non deux, mais trois parties, toutes consacrées à l'étude des principes inhérents à la voix humaine. Comme l'explique Aristide Quintilien dans son traité de la musique, le plus complet que nous possédions en la matière dans la longue période entre Aristoxène et Boèce, la musique théorique s'articule en harmonique, rythmique et métrique. Est harmonique le savoir des tons. Est rythmique l'art des mouvements. Et métrique, enfin, l'étude des syllabes. Reprise par Marcianus Capella au livre 9 de ses Noces de philologie et de Mercure, cette tripartition exerça une influence durable sur le Moyen-Âge. Boèce, pour sa part, resta fidèle à la première définition pythagoricienne de la musique, comme science essentiellement harmonique. Bien qu'il admit que le savoir des multitudes rapportées les unes aux autres pût aussi porter sur la voix humaine, il ne discuta ni de la rythmique ni de la métrique. Pour lui, il ne fut question que de ces trois grandes branches de la musique que furent musica mundana, musica humana et musica instrumentalis. Et de cette dernière, laquelle comprend la voix humaine ainsi que les instruments musicaux, il dit fort peu. Mais Cassiodore, son contemporain, montra un intérêt majeur pour cette troisième et infime variété du son ordonné, qui relevait de la musica instrumentalis. Ainsi choisit-il de suivre Aristide en affirmant qu'au sens strict, musique se dit de trois manières, dont toutes peuvent s'identifier dans la voix. Il dit, ça c'est Aristide, ou pardon, ça c'est Cassiodore en suivant Aristide, soit elle est harmonique, soit elle est rythmique, soit elle est métrique. Isidore de Séville, un siècle plus tard, répéta cette formule, dont les échos seraient nombreux au Moyen-Âge. Mais l'ancienne tripartition de la musique vocale fut toujours instable. Ce n'est pas seulement que les sciences harmoniques, rythmiques et métriques ne furent jamais véritablement conjointes dans les œuvres majeures de la tradition gréco-latine. En effet, aux elementa harmonica et rythmica d'Aristoxène ne correspond nul livre d'elementa metrica. Augustin, auteur d'un dialogue De Musica, traite systématiquement de la rythmique et de la métrique, mais non de l'harmonique. Et dans ses noces, Marcianus, quant à lui, discute longuement d'harmonie et de rythmique, mais omet toute considération métrique. Ces faits sont certes remarquables. Pourtant, l'essentiel est ailleurs. Il importe d'observer que le sens de la rythmique hellénique ne survit guère à sa traduction en langue latine. Car en s'appropriant des sources grecques, les auteurs romains avaient fait un choix singulier. Par le vocable latin « rhythmus », ils avaient résolu de rendre deux mots grecs distincts. D'une part, « rhythmos », simple pendant hellénique à ce lexème latin, et de l'autre, « arrhythmos », c'est-à-dire le nom classique de nombre. Dans le livre 9e du De Institutione Oratoria, Quintilien, pour ne citer qu'un seul exemple, déclara, sans trop s'attarder sur ce point, « Par nombre, j'entends rythme, numeros, numeros, rhythmos, accipi, volo. » C'est ainsi que l'art rythmique se mua très exactement en arithmétique. Pour elle, seuls comptaient les éléments disjoints et uniformes susceptibles d'être assemblés en diverses mesures. Ce furent les multitudes de syllabes longues et brèves de l'art du vers latin. S'ensuivit alors un lien toujours plus étroit entre cette rythmique et ce que l'on appela métrique. Chez les auteurs classiques, la transition du rhythmos au métrone ne fut jamais simple. Depuis Aristoxène, la doctrine rythmique prenait en compte la parole en tant que celle-ci exhibait des régularités de durée, des chronoi, des temps. Mais que ces durées ne coïncidassent pas avec les mesures des vers scandés, qu'il y eût un écart nécessaire entre les rythmes et les maîtres, cela fut un des points majeurs de la doctrine de l'auteur des Elementa Rhythmica, sur lequel il insista. Ainsi, au début du livre 2 de son traité, Aristoxène suggère une analogie. Il écrit « De même qu'un objet matériel peut assumer diverses formes selon l'arrangement de quelques-unes ou bien de toutes ses parties, de même, ce qui est rythmé, c'est-à-dire « ta rusmisomena », le matériau, ce qui a été rythmé, de même, ce qui a été rythmé assume des formes multiples, lesquelles dépendent non pas de leur propre nature, mais de la nature du rythme adopté. Un seul mot ou phrase, ou bien tous les mots, diffèrent selon l'arrangement de leurs parties, et ils différeront de toutes les manières dont les rythmes, quant à eux, peuvent se distinguer. Le même argument s'applique à la mélodie et à ce qui est rythmé dans ces rythmes qui consistent de durée. Dans l'Antiquité, ce devint un point capital dans la langue, dans la longue et célèbre dispute entre rythmiki et metriki. Les premiers, les rythmiki, tenait qu'il existait une matière à laquelle il donnait le nom de ce qui a été rythmé. Pour eux, celle-ci ne pouvait se réduire à ces ordres stables que sont les maîtres. Mais il est clair que dans la traduction romaine de rhythmos par numerus, la question tout entière s'effaçait. Cette donnée cruciale, mais informe, de la rythmique s'abolissait alors. Seule demeurait l'unité arithmétique, qui deviendrait l'élément discret et constant du maître. On comprend que Quintilien ait pu définir ces rythmes et sive numeri comme des espacements temporels, spationes temporum, à condition d'ajouter qu'il revient au maître de disposer leurs ordres et positions. Si l'on croit à l'Ars Grammatica de Diomède, Varron ne disait pas autre chose. Par rythmos, lit-on, il entendit ce que l'on appelle nombre en latin, metrum ne désignant que sa juste mesure. À l'époque médiévale, le rapprochement entre le savoir des multitudes et l'art du vers prit une forme nouvelle. Il arriva que l'étymologie en langue vulgaire soutint la traduction latine. Ainsi, nombreux sont les auteurs et les scribes qui suggérèrent que l'art métrique n'était en vérité qu'une forme neuve de l'arithmétique des anciens. En témoigna, selon certains auteurs, le mot ancien et moyen français « arithmétique », dérivé du bas latin « arismetica ». Et quatre diverses manières de sciences nobles et chères en mathématiques sont prises et terminées et comprises. « Arismétique » en est une, musique l'autre plus commune, la tierce si est géométrie et la carte ou plus à métrie est astronomie, me semble. C'est ce qu'on lit dans le livre de la mutation de fortune de Christine de Pizan. Que l'art mathématique de l'arithmétique et l'art métrique de l'ars métrique fussent fort difficiles à distinguer à l'oreille comme à la graphie, nul n'en doutait. Dans le domaine linguistique moyen anglais en particulier, l'homophonie fut exploitée, jusqu'au point où la distinction entre les deux mots pouvait disparaître. Dans une poésie du XIIIe siècle dédiée à Edmond le Confesseur, on apprend que ars métrique est un savoir qui se fonde dans les nombres. À la fin du XIVe siècle, John Trevisa explique dans son De proprietatibus rerum que la science d'ars metrica permet de connaître toutes ces choses dont les philosophes doivent traiter. For the lore of ars metrica passeth all other to help to know all things of kind of the which philosophy mote treat. Au XVe siècle encore, ces formes hybrides persistent. On trouve ainsi dans un catalogue des arts libéraux une rubrique à la position arithmétique, ars métrique. Les sciences mathématiques sont bien quatre, arithmétrique, géométrie, musique et astronomie. Et c'est dans les nombres et du savoir de dénombrer que traite arithmétrique. The mathematical sciences being four, arithmetric, geometry, music and astronomy, of numbers and craft of numbering treateth arithmetric. Sans doute, ces jeux de paronomase médiévales furent-ils fabuleux. Reste que l'assimilation de l'art métrique à l'arithmétique, quant à elle, fut bien fondée. Depuis l'époque la plus ancienne, en effet, la métrique, comme la musique, traitait de quantités discrètes, assemblées pour former des multitudes. Car le vers grec classique, chacun le sait, fut très précisément quantitatif. Seul comptait pour lui la distribution des voyelles brèves et longues arrangées dans ces unités supérieures que l'on nomme les pieds. Or, par un heureux hasard, la langue latine admettait la différence phonologique qui fondait la métrique hellénique. Car dans l'idiome des Romains aussi, la distinction entre le bref et le long fut pertinente. Cela signifiait que les formes de vers grecs étaient souvent susceptibles de traductions métriques. Ainsi, l'hexamètre d'Attilique passa-t-il au prix d'infimes modifications d'Homère à Virgile, et le scénaire iambique latin se forma-t-il au prix d'une modification plus conséquente à partir du trimètre iambique grec. Pourtant, la langue romaine était appelée à se transformer. Avec le temps, elle perdit non pas seulement quelques-unes, mais l'intégralité de ses quantités classiques. Définie comme ce savoir qui considérait les voyelles longues et brèves, soudain, la métrique devint obsolète. Bien entendu, la poésie romaine en tant que telle ne pouvait pas périr. On connaît la thèse de Jacobson « À toute langue est donnée la possibilité matérielle du vers ». La littérature néo-latine témoigne de la justesse de ce principe. Car au moment même où ce qui avait été l'idiome des Romains n'admettait plus la distinction linguistique qui fondait ces vers classiques, des écrivains trouvaient les moyens de forger un nouvel art poétique. On considère que le plus ancien exemple de cet art est l'œuvre d'Augustin. Dans son Psalmus contra partem donati, composition strophique rédigée vers 393, aucune distribution stable de quantité syllabique ne se laisse repérer. Cependant, on constate que le texte est divisé en vers, puisque des accents lexicaux s'y présentent d'une manière régulière, qui rappellent le placement des voyelles longues dans le septenaire trochaïque des anciens. Augustin lui-même fut fort conscient de ce que cette forme poétique avait d'irréductible à la prosodie classique. Il commente, non sans quelque embarras, que le texte n'est écrit dans aucun genre de poésie, non aliquo carminis genere, étant dédié à cet humilianum vulgus qui n'entend guère les maîtres. Dans les siècles qui suivirent, les formes de vers semblables se multiplièrent. Plusieurs types de poésie accentuelle prirent alors la place qu'occupaient jadis les vers quantitatifs de l'époque classique. Inévitablement, une question alors se posa. Quel nom donner à ces nouvelles formes en vers? Les définitions classiques interdisaient que l'on fît usage du mot de maître, puisque ce dernier consistait chez les anciens en des combinaisons de pieds composées de voyelles longues et brèves. Or, c'était précisément ces voyelles de quantité distincte que l'on ne retrouvait plus chez les médiévaux. Ainsi, les moderni découvrirent-ils un sens nouveau à ce mot opaque de rhythmus. Dans la Rome classique, on l'a vu, le nom de rythme n'intéressait guère les rhétoriciens et les grammairiens que qu'en synonyme de nombre, lequel ne possédait de sens en poésie que lorsqu'il était rapporté au maître. C'est précisément cela qui devait changer au Moyen-Âge. À partir de la fin du 7e siècle, on constate ce fait remarquable. À tous ces vers nouveaux qui ne se laissent pas scander selon les maîtres classiques, on donna le nom de rythme. Bède le Vénérable fut, semble-t-il, le premier à user ainsi de ce vocable. Après son traité de métrique, il esquisse ainsi un traité de rythmique qui traite de formes récentes où l'on compte accents et syllabes sans considérer la longueur des voyelles. Depuis le XIXe siècle, les philologues ont adopté, eux aussi, cet usage. Et dit rythmique, toute composition dont les vers n'adhèrent pas aux règles de la métrique latine classique. Dans un sens plus étroit, et dit rythmique, toute composition dont la forme du vers dépend de la disposition des accents. Pourtant, de telles définitions risquent d'obscurcir la variété réelle de cette littérature. Dans un premier temps, le nouvel art latin se déploya à travers la lecture et la réécriture novatrice de textes anciens. Selon Dag Norbert, on lisait les anciens vers quantitatifs en respectant les accents ordinaires comme s'ils avaient été de la prose et en prenant garde aux coupes et à la répartition des mots dans les vers. Puis on imitait l'image rythmique ainsi obtenue sans se soucier de la quantité. Tantôt cette imitation prenait en compte le nombre d'accents dans chaque vers, tantôt elle reflétait le nombre de mots ou le simple décompte des syllabes. Les possibilités qui s'ouvraient alors à l'art d'écrire en vers étaient innombrables. Qu'ils fussent accentuels, lexicaux ou syllabiques, les fondements de cette pratique furent en tout cas toujours rythmiques en ce sens nouveau. Indifférents au maître, ils ne concernèrent que des purs rapports de numérie. Que ces rapports impliquassent les accents, les mots ou les syllabes importa peu. L'essentiel fut l'invention d'un art de vers non quantitatif et pourtant mesuré. Car par elle, la rythmique s'imposa comme une nouvelle poétique arithmétique. Du moment qu'elle ne disposa plus des maîtres classiques, la poésie latine en effet innova, en usant de matériaux que le vers antique, quant à lui, avait rejetés. Sans doute l'exemple le plus frappant en est-il cette figure sonore que l'on nomme l'assonance. Il voit de soi que ce procédé d'ordre phonétique qui lie deux syntagmes par l'identité de la voyelle était connu des rhétoriciens classiques. Edward Norden a montré qu'il fut souvent exploité dans la prose ornée antique. Pourtant, les poètes classiques ne firent qu'un usage exceptionnel de l'assonance. On a remarqué à ce sujet qu'une modification majeure se détecte chez Sedulius, Ce poète chrétien du 5e siècle applique à son vers la même technique dont il se sert dans sa prose rhétorique. Ainsi a-t-on noté que dans son Carmen Pachalet, composé en hexamètre, il n'y a pas seulement des assonances à la fin des vers, mais même entre les mots placés devant les différentes coupes, et ce à la fin des vers. Ces assonances sont doubles ou multiples ou forment des figures de différentes sortes. Des institutions semblables qui lient les fins de vers entre eux se repèrent après Cédulius chez Eugène de Tolède et Paul Alvar de Cordoue. À l'époque de la Renaissance carolingienne, de nombreux poètes écartèrent ces techniques peu classiques. Mais la tendance conservatrice à ce propos dura peu. À travers la Romagna, de l'Ibérie à la France et à l'Italie, l'emploi de l'assonance terminale dans le vers se raffina. Qu'il suffise de rappeler à ce propos l'hymne « O tu qui servas armis ista moenia », texte rythmique rédigé à Modène en 892, aussi érudit qu'élégant, comme le dit Dag Norbert, dans lequel tous les vers, à l'exception de deux, se terminent en A. À ce curieux emploi de l'assonance en position terminale du vers, il est désormais d'usage de donner qu'un seul nom. Dans ce cas, on parlera de rime. Les philologues se sont longuement attardés sur la question de savoir si les origines de cette institution poétique étaient de nature rhétorique, musicale ou liturgique, si sa provenance linguistique pouvait être gréco-latine, ou bien romane ou sémitique. L'appellation de cette assonance singulière, en position terminale, du vers a aussi attiré l'attention des critiques. Ainsi, Paul Zumthor a-t-il consacré une étude mémorable à la sémantique historique de ce lexème dans les divers vocabulaires du Moyen-Âge roman. À travers des formes substantives, rime, rima, rime, des expressions verbales, rimer, rimar, rimoyer, contre-rimoyer, des syntagmes complexes tels compter par rime, faire par rime, mettre en rime, un ample champ d'études morphosémantiques s'est ouvert. Les recherches dans ce domaine ne sont pas closes. Toutefois, il est frappant que les théoriciens médiévaux de l'art rythmique aient donné à cette assonance terminale dans le vers un nom autre que celui de rime. Aujourd'hui encore, on ne mesure peut-être pas toute la portée de leur choix. Ce fait fut d'abord établi par Giovanni Mari, le premier éditeur des traités de rythmique latin. Si l'on considère les nombres rhythmico dictamines, regulae de rhythmis et artes rhythmica des 12e et 13e siècles, on constate qu'un seul usage terminologique domine. Pour les écrivains en langue latine de l'âge scolastique, cette institution que nous appelons la rime se nomme en fait la consonance, consonantia. À cet égard, les divers écrits de Jean de Garlande sont particulièrement éclairants. Cet auteur du XIIe siècle traite de l'art rythmique dans une perspective singulièrement complète, qui unit d'un seul trait non seulement les disciplines de la rythmique et de l'arithmétique, mais aussi de la musique et de la rhétorique. Dans ses catalogues des savoirs, Jean accepte la tripartition pythagoricienne de l'art des multitudes. Musica, pour lui, se dit mundana, humana et instrumentalis. À l'intérieur de cette branche de la musique, qu'est le savoir instrumental, se situe, précise-t-il, l'étude des diverses quantités de la voix humaine. Celle-ci se laisse aussi traiter de trois manières, par l'analyse harmonique, métrique et rythmique, melica, metrica et rythmica. Ces deux articulations, nous l'avons vu, sont strictement classiques. Mais chez Jean de Garlande, elles servent en vérité à introduire une définition originale de l'objet de l'art poétique, le rythme. Ce dernier, lit-on, est la consonance des mots qui, ordonnés par un certain nombre et sans pied métrique, se ressemblent dans leur terminaison. Rhythmus est consonantia dictionum in fine similium sub certo numero sine metricis pedibus ornata. Comme l'a observé William Waite, Jean intègre ici à sa définition du rythme deux acceptions fort différentes de rhythmus en poétique. L'ancienne, qui vit en lui un nombre disposé de manière mathématique dans le pied, et la médiévale, qui l'entendait comme élément accentuel et non métrique. Ainsi, ce rythme, lequel consiste en la consonance des mots qui est ordonné par un certain nombre et sans pied métrique, se ressemble dans leur terminaison, se définit-il de manière à la fois musicale et poétique, classique et moderne. En tant qu'il est qualifié consonance, de consonance, il est objet de ce savoir antique que fut l'art des sons harmoniques. Mais en tant qu'il se rapporte aux mots qui s'ordonnent sans pied métrique, tout en étant semblables dans leur terminaison, il est l'objet du nouvel art des quantités rythmiques. Jean proposait ainsi une doctrine qui se mesurait aux inventions de son temps. Il n'hésita pas à montrer, en effet, comment sa théorie pouvait s'appliquer au vers. Soit une poésie strophique composée de 4 vers de terminaison similaire, suivie par un vers dont la fin est marquée d'une autre terminaison. C'est-à-dire une poésie dont la structure de rime se résume dans la forme A, X, B, 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 X, etc. Selon Jean, une organisation à la fois poétique et harmonique s'y constate, puisqu'on observe en effet un art de différence rythmique, differentiae rhythmicae, où dans chaque strophe, l'élément nouveau, c'est-à-dire ce que nous, on appellerait aujourd'hui la rime, se marque dans le 5e vers, ce sont les mots de Jean, l'élément nouveau se marque dans le 5e vers en ressemblance avec la quinte. Quae fit indiapente. Cette analyse de la forme poétique vaut bien que l'on s'y attarde, car elle suggère que dans le temps de la récitation, à travers le décompte de syllabes uniformes, se fait entendre un espacement de l'ordre de l'extension des sons musicaux. Dans leur éloignement, les terminaisons se posent comme les divers tons des intervalles. Les éléments rythmiques, alors, se révèlent harmoniques. Selon le traité de Jean, en effet, à tous les intervalles classiques de la théorie musicale correspondent des dispositions précises de l'art rythmique. Ainsi, les rapports arithmétiques de l'octave, de la quinte et de la quarte sont en corrélation avec 3 types d'assonances régulières en position terminale. Non moins que dans le discantus et dans l'organum, peut-on lire, dans le rythme, la consonance peut se donner dans le 2e, dans le 3e, dans le 4e ou dans le 5e vers, et ce, à la manière de la quinte, qui consiste en 5 tons, ou de la quarte, qui consiste en 4 tons, ou de l'octave, consonance composée elle-même de plusieurs autres consonances, puisqu'elle contient à la fois la quarte et la quinte. Dans de tels usages, le nom de consonance est à prendre à la lettre. Traduction latine de la symphonie à grec, ce terme désigne, en acoustique ancienne, l'effet particulier que produisent 2 tons liés par un rapport musical. À ce propos, une précision historique et technique n'est peut-être pas superflue. L'art harmonique des anciens ignorant la polyphonie, pour se représenter la forme classique de la consonance, il importe de partir du constat que l'émission de sons multiples n'est dans cette symphonie jamais absolument simultanée. Pourtant, il est une unité de son. Que l'on imagine un ton émis après un autre, se produit alors, ne fût-ce qu'un instant, une superposition sonore, agréable à l'ouïe, laquelle va mêler 2 tons pourtant indépendants. Car si l'on joue un premier ton suivi d'un second, plus aigu d'une octave, il semble, dans le moment de la consonance, ne former qu'un accord. Il en va de même pour la quarte et de la quinte. Chacune, au moment de sa production, mène l'oreille à croire que là où existent 2 êtres distincts, il n'y en a qu'un seul. Avec l'émergence de l'art polyphonique au cours du IXe siècle, les théoriciens de l'harmonie durent modifier la terminologie classique dont ils avaient hérité. Hucbald de Saint-Armand dut ainsi distinguer, comme l'a montré Claude Palisca, entre plusieurs vocables d'origine ptoléméenne que lui avait transmis Boès. Les anciens qualifiaient d'unisonans 2 tons de même fréquence. Ils appelaient equisonans 2 tons selon l'intervalle de l'octave. Et ils usaient du nom de consonans, surtout pour désigner les sons de la quarte et de la quinte. Mais dans aucun des cas, l'émission des divers tons n'était strictement simultanée. Hucbald, pour sa part, connaissait l'art de disposer des voix multiples dans un même instant. Par consonance, il n'entend donc pas les intervalles de la quarte et de la quinte perceptibles dans la durée, mais toute simultanéité de tons harmoniques. Consonantia, écrit-il, est ce mélange calculé et concordé de 2 sons, lequel se produit seulement quand 2 sons simultanés de sources différentes se combinent pour former un seul tout musical. Ainsi arrive-t-il quand les voix d'un homme et d'un garçon sonnent en même temps. Et en effet, c'est cela que l'on appelle faire de l'organum. Ces consonantiae sont au nombre de 6, dont 3 sont simples et 3 sont composées. L'octave, la quarte et la quinte, diapason, diatessaron, diapente, et l'octave et la quinte, l'octave et la quarte et la double octave, diapason plus diapente, diapason plus diatessaron et bis diapason. Ces faits sont bien connus des historiens de la musique médiévale. Cependant, une question demeure. Que serait une consonance dans le rythme? Aucun théoricien classique ou carolingien n'a jamais évoqué un tel être. Pour que la notion de musicale de symphonia pût revêtir un sens dans l'art du vers, deux déplacements majeurs étaient requis. Ces derniers se résument aisément. De prime abord, le son harmonique devait se rendre littéral. De même que la musique antique avait connu des tons distincts disposés en intervalles, la poétique médiévale devait entendre dans les phrases, dans les mots, des unités minimales de la parole, qui ne se confondaient avec aucun sens donné, des rimes. Deuxièmement, la simultanéité perçue des tons devait acquérir une forme nouvelle, car jamais la superposition des différences rythmiques ne pouvait-elle être réelle. Dans l'écoulement du temps de la récitation, il fallait que s'ajoute, au moment chronologique de la performance poétique, un présent perceptuel. Dans ce présent de la mémoire, supplément à l'instant réel, et en lui seul, des lettres pouvaient se lier les unes aux autres, à la manière de tons distincts, pour consonner dans une harmonie nouvelle. Théoricien de l'art rythmique du vers latin, Jean de Garland n'évoque jamais les inventions en langue vulgaire de ses contemporains. Mais ce sont les troubadours qui élevèrent cet art au plus haut point, raffinant et étendant le champ de la consonance musicale en matière de poésie. Arnaud Daniel aurait été le plus virtuose parmi les musiciens de l'art rythmique, du moins est-ce Dante par l'entremise de Sanguinizelli qui le dit. Et si Arnaud fut le meilleur forgeron de la langue maternelle, il miglior fabbro del parlar materno, c'est sans doute parce qu'il parvint, comme personne, à découvrir sa propre harmonie. Il n'est que de songer, à titre d'exemple, à la technique poétique de Laura Amara. Je vous rappelle la première strophe. Laura Amara, falsprits brancuts, clartir, quel dulce space abfuels, el lets, pex, del sautzels ramenx. Ten balps et muts, pars et non pars, perché mes forts de fare dir placers amans per lei, que ma virat bastaut, dont tem morir si la fans non m'assomme. Jacques Roubaud a traduit ces vers ainsi. L'air amer fait les bois branchus s'éclaircir, que le doux épaissit de feuilles, et le joyeux bec des oiseaux rameux rend balbutiant muet, en couple ou non couple, ce pourquoi je m'efforce de faire et de dire chose agréable à plusieurs pour celle qui m'a jeté de bas à haut, dont je crains de mourir, si la douleur, elle n'arrête. Seuls comptent ici les deux éléments rythmiques admis par l'art des troubadours. La syllabe, dont les nombres mesurés composent le vers ou bordo, et l'ordre de ces homophonies situées au fin des vers, que l'on nomme les rimes. Par elles s'articule la rythmique de la chanson, et par elles s'entend sa consonance. Mais Arnaud conduit l'harmonie du vers au-delà des régularités reconnues par les théoriciens de la rythmique latine, tout en usant des mêmes matériaux que ces derniers. On s'éloigne des 6 consonances énumérées par Jean de Garland, lesquelles reconstituèrent au sein de la poésie les 3 accords pythagoriciens. Comme le notèrent les auteurs de ses premiers textes critiques en langue d'oc que furent les Vidas, Arnaud prête une attention particulière aux rimes les plus âpres, en uts, en ets, en ex, en orts. L'œuvre se tient par les sons les moins mélodieux qui soient. Mais si les consonances de cette composition risquent de mener à la dissonance, c'est à cause de la disposition de leurs rimes. dont la complexité est sans précédent. Pour entendre le rythme de ces vers, il faut en effet percevoir les quantités syllabiques les plus diverses, qui s'étendent d'un seul mot par vers, pars, c'est l'exemple de ce mot vers, il faut entendre les quantités qui s'étendent d'un seul mot à des multitudes bien supérieures de 2, 3, 4, 5, 6 et 7 syllabes. Et pour saisir les consonances qui résonnent dans ces rapports de nombres purs, il faut que persiste dans l'esprit l'ensemble de toutes ces différences rythmiques. Celles-ci sont au nombre de 18 et adoptent dans chacune des 6 strophes un ordre très complexe que je vous épargnerai. Mais sachez évidemment qu'on compare de vers à 18 rimes et les possibilités de diminuer ou d'augmenter la longueur des vers d'une syllabe jusqu'à 7 syllabes. Et Arnaud use de toutes les possibilités que cette forme lui donne. Que ces divers sont distribués sur les mesures les plus inégales, soient tous simultanés à l'oreille, voilà qui est sans doute difficile, voire impossible à admettre. Cependant, la réalisation de cette consonance n'exige rien de moins. Dans une seconde composition en 6 parties, Arnaud parvint à développer davantage son art rythmique de vers nombrés et consonants. Il atteignait alors un point extrême, où harmonie et disharmonie ne font plus qu'un. Comme vous l'aurez deviné, je fais allusion à ce cristal du trobar que représente « Al ferm voler quel cor m'intra », dont la forme reprise par Dante et puis par Pétrarque se répandit dans les littératures de l'Europe moderne sous le nom de sextine. On connaît les caractéristiques qui définissent la forme de cette singulière chanson. Il s'agit d'une poésie en 6 strophes, ou cobla, dont chacune se compose de 6 vers, un heptasyllabe, suivi de 5 décasyllabes. Cette organisation arithmétique en soi ne présente aucune propriété remarquable. Mais la différence rythmique qui articule le conso, quant à elle, est originale. Car on assiste ici à l'émergence de cet être poétique que l'on a nommé le mot rime, en qui les unités de la rime et du lexique coïncident. Chaque cobla se compose donc de vers se terminant par ces 6 mots rimes. Entre ces 6 mots, je vous les rappelle, intra, ungla, arma, verga, uncle, cambra, il n'y a aucune rime, selon la définition précise adoptée par les penseurs de l'Estamor, bien que 2 assonances se constatent, celles d'ungla et oncle, arma et cambra. Mais le trait le plus frappant est sans aucun doute que de cobla en cobla, la disposition de ces unités finales varie sans cesse. De la perpétuelle variation de la position des mots rimes, l'on serait peut-être tenté de conclure au désordre. Pourtant ici, rien n'est moins sûr, car un strict ordre arithmétique commande la mutation de position rythmique. Ainsi, si l'on identifie les 6 unités à leur placement initial, on constate que de strophe en strophe, le mot rime 1 passe à la place du mot rime 2, 2 à 4, 3 à 6, 4 à 5, 5 à 3 et 6 enfin à 1. Il fut jadis habituel de distinguer entre ces compositions poétiques des troubadours où de strophe en strophe, les mêmes différences rythmiques se répétaient et celles en revanche où chaque strophe comportait des sons uniques. À la forme de textes suivant la structure première, les théoriciens des Leis d'Amour, puisant dans le lexique musical, donnèrent le nom de coblas unisonans. Ils appelèrent singulars les coblas dont les rimes se renouvelaient sans cesse. Considérons dans cette perspective la structure d'Al ferm voler d'Arnaud Daniel. En toute rigueur, il est impossible d'accorder à ces coblas le titre d'unisonans, car jamais le même mot, prime, n'apparaît 2 fois dans une position identique. Mais il ne serait pas moins imprécis de qualifier ces strophes de singular, puisque chacune se lie par le biais de ses différences rythmiques à toutes les autres. Dira-t-on alors que l'on a atteint un nouveau seuil, où entre l'unisson et la singularité des tons, il n'est guère plus possible de trancher? Comme le suggérait déjà Friedrich Tietz, cette composition d'Arnaud semble récuser l'axiome sur lequel était fondée la partition traditionnelle. L'axiome qui dicte que chaque partie de la poésie reste close et intelligible en elle-même, qu'elle forme, autrement dit, comme le dit Dietz, un texte harmonique, harmonischer Text. Car dans cette chanson, le principe de la distribution des mots rimes n'est pas strophique, mais strictement métastrophique. À l'échelle du poème, cette nouvelle complétude devait se faire au prix de la brisure de la cobla close. Arnaud unifia ainsi sa chanson comme nul ne l'avait fait. Mais le tressage des membres poétiques s'accomplissait dans la dispersion de ces anciennes unités rythmiques. L'art formel de la poésie médiévale, en effet, touche ici à sa limite. Dans ses multiples éléments, syllabes et rimes, elle exhibe des rapports stables qui témoignent de l'existence d'un ordre propre à cet être qu'est la voix humaine. Se retrouve ainsi dans l'éparpillement de ces rimes caras, bruts et presque et stramps, des proportions arithmétiques au-delà du domaine des sons musicaux. Certains en concluront que le programme pythagoricien aboutit ainsi à son terme, car il a été possible de déchiffrer les unités de l'harmonie dans la poésie. Passé l'âge de ces mouvements ordonnés qu'étaient les rythmoi, passé l'efflorescence de l'art métrique des anciens et les siècles qui amorcèrent sa lente désuétude jusqu'à sa disparition, de nouvelles multitudes sonores seraient identifiées. Bien plus, elles feraient l'objet de brillantes mises en vers. Par les jeux de différences rythmiques, une harmonie, alors, avait été trouvée. Mais comment en être certain? Sans doute n'était-ce pas un hasard si les consonances présentes dans « Alferm Voler » sont, pour leur part, presque imperceptibles. De plus, on sait que la poésie s'accompagnait d'une composition musicale dans la forme de l'oda continua, laquelle interdisait toute répétition mélodique. La chanson était donc animée d'une musique à la fois harmonique, rythmique et métrique. Mais celle-ci ne se donna jamais directement à l'ouïe. Pour l'audition comme pour la composition, une notation était requise. Non pas transcription, mais représentation stable d'unités distinctes que sont les rimes. Certes, il est concevable que l'écriture dans cette chanson n'ait été qu'un moyen d'enregistrer cet être proportionnel qu'était la voix humaine. Pourtant, il est aussi imaginable que l'artifice de l'écriture servit ici une autre fin. Car en amenant l'art rythmique du verbe médiéval à son apogée, la notation le contraignait aussi à atteindre un seuil acoustique d'une profonde ambiguïté. Quoi de plus désorientant, en effet, que ce nouvel ordre poétique dans lequel l'ouïe, en elle-même, ne saurait saisir la différence entre la rime et son absence? Dans l'incessant mouvement sonore qui définit cette composition, il est difficile, voire impossible, en effet, de distinguer la consonance de la dissonance. Que l'on assiste ainsi à la mise en œuvre d'une harmonie supérieure qui dépasse les limites du perceptible, étant trop subtil pour nous, cela est fort probable. Reste pourtant la possibilité troublante d'une disharmonie. Non pas celle qui est extérieure à l'art du nombre, du son et de la juste mesure, mais celle que l'on atteint précisément en portant l'art rythmique à son plus haut point, où de la parfaite disposition de mots rimes nombrés surgit une démesure. S'il en avait été ainsi, l'art de cet accord conduirait en vérité à l'émergence d'un descore. Une chose du moins est sûre, à travers les sons notés de cette composition en langue d'oc, le troubadour fit entendre une musique sans précédent. En elle, ne fût-ce qu'à un instant et ne fût-ce qu'une fois première, le rythme et l'arythmie, le nombre et le sans-nombre ne firent plus qu'un. »